Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre la vie de Jésus et son ministère, le sens de sa mort sur la croix et sa résurrection.
C'est dans cette perspective que nous allons aujourd'hui nous pencher sur l'évangile de Marc et nous demander pourquoi Jésus est porteur d'une espérance formidable pour tous ceux qui croient en lui.
Écoutons pour commencer la lecture de Marc chapitre 1, versets 1 à 8. Ensuite, Yann s'entretiendra avec Alain, afin d'en tirer les leçons les plus fondamentales.
C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. « J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. » On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, « Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Jean parut. Il baptisait dans le désert. En effet, il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu d'un vêtement de poil de chameau maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et voici le message qu'il proclamait. « Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. »
Merci Sandra et bonjour Alain.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Nous venons d'écouter les tout premiers versets de l'évangile de Marc. Par où voulez-vous commencer?
Je vais commencer en considérant les paroles de Marc, l'auteur de cet évangile. Il déclare dès le premier verset qu'il a une bonne nouvelle à annoncer. Nous savons que lorsque nous écoutons les informations à la radio, trop souvent elles sont dominées par de mauvaises nouvelles, des nouvelles tragiques, tristes ou inquiétantes. Nous préférons entendre les bonnes nouvelles. Par exemple, un ami qui réussit un examen ou bien un autre qui se marie. Ce type de nouvelles réjouit les cœurs. Et voilà que Marc déclare qu'il a une bonne nouvelle à annoncer. Cette déclaration éveille en nous la curiosité et elle attire notre attention. D'autant plus que Marc écrit avec l'intention de nous rendre heureux.
Quelle est donc la bonne nouvelle que Marc veut annoncer?
Marc veut parler de Jésus-Christ, son message et sa vie, sa mort et sa résurrection. Mais pour comprendre la raison pour laquelle Jésus-Christ représente une bonne nouvelle, nous devons lire la totalité des écrits de Marc, rassemblés dans l'évangile qui porte son nom. Mais dès à présent, nous pouvons expliquer la raison pour laquelle la venue de Jésus sur la scène de l'histoire représente une bonne nouvelle. Marc affirme que Jésus est l'accomplissement des promesses données par les prophètes de l'Ancien Testament. Tout au long de ses récits, Dieu révèle que le jour viendra où il enverra un personnage extraordinaire qui agira en libérateur, en puissant sauveur. Il est vrai que lorsque nous nous trouvons confrontés à des situations difficiles, nous constatons alors notre impuissance et l'arrivée d'un sauveur constitue une très bonne nouvelle. Ainsi, au fur et à mesure que nous avancerons dans notre étude de l'évangile de Marc, nous découvrirons non seulement que tout être humain a besoin d'un sauveur, mais que de surcroît, Jésus-Christ est ce sauveur. Le nom Jésus signifie d'ailleurs « Dieu sauve » et à travers ses récits, Marc nous prouve que ce titre lui est fort approprié.
Alain, vous avez mentionné les nombreuses prophéties trouvées dans l'Ancien Testament concernant le Sauveur. Cependant, la prophétie citée par Marc parle plutôt d'un messager dont la tâche était de préparer les hommes à l'arrivée de ce Sauveur.
C'est exact, Yann. Les prophètes Ésaïe et Malachie avaient l'un et l'autre annoncé que la venue du Sauveur serait précédée par le ministère d'un autre prophète. Or, Marc voit à travers les œuvres de Jean-Baptiste l'accomplissement de ces prophéties. Israël n'avait pas eu de vrai prophète depuis au moins 400 ans. Et puis soudain, un prophète ressemblant beaucoup au prophète Élie s'est mis à prêcher la repentance et le baptême et à déclarer qu'une personne bien plus importante que lui était sur le point de paraître.
Et énormément de personnes affluaient dans le désert pour entendre Jean prêcher.
Oui, et il s'agit là de bien plus qu'une simple curiosité. Les gens vivaient sous l'oppression de l'occupant romain. Ils connaissaient les Écritures et attendaient ardemment un sauveur. Le peuple savait qu'un prophète précéderait l'arrivée de ce sauveur. Et c'est pourquoi les gens accoururent pour voir Jean-Baptiste, convaincus qu'ils étaient que Dieu commençait à accomplir ses promesses envers eux. Ils devaient se dire « Enfin, voilà de l'espoir, les choses vont commencer à bouger ». Et c'est exactement le message que je voudrais donner à nos chers amis auditeurs. Jésus est venu et un grand espoir est né. Jésus est venu et il peut transformer nos vies.
C'est effectivement une bonne nouvelle. Mais pouvez-vous nous aider à comprendre l'enseignement de Jean-Baptiste quand il déclare « Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit ».
Le baptême d'eau représente une illustration de ce que seul Dieu peut accomplir dans nos cœurs. À l'époque de Jean-Baptiste, une personne qui passait par les eaux du baptême exprimait son désir de dire non au péché, non à la tentation. Elle manifestait sa volonté de recevoir le pardon et la purification de ses fautes. Toutefois, l'eau en elle-même ne peut pas nous purifier de nos péchés. Elle sert simplement d'illustration à une importante vérité. Dans l'Ancien Testament, les prophètes se lamentaient parce que le peuple de Dieu tombait trop facilement dans le péché et se tournait trop souvent vers l'idolâtrie et l'immoralité. Parfois, cependant, certains hommes essayaient de changer, d'être meilleurs, mais malgré leurs efforts, ils n'y parvenaient pas. Que faire alors? Dieu apporta sa réponse à travers les prophètes. Écoutons à ce propos les paroles du prophète Ézéchiel. « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois, et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Ainsi, l'Esprit de Dieu accomplira pour nous ce que nous ne pouvons pas nous-mêmes réaliser. Il nous purifiera de nos fautes, et nous aidera à vivre comme Dieu le désire. Cela devient possible uniquement parce que Jésus envoie son esprit dans les cœurs de ceux et celles qui croient en lui. Jean-Baptiste ne pouvait accorder ce don à aucun homme, aucune femme. Mais Jésus, lui, le jour de la Pentecôte, a envoyé son esprit sur l'Église, et aujourd'hui, il le donne à quiconque veut marcher avec Dieu.
Merci Alain, et c'est sur cette bonne nouvelle que nous devons nous arrêter. Mais nous continuerons notre série dès la prochaine fois.
Merci Yann et au revoir à tous.
Nous remercions Yann et Alain pour leur participation. Et à présent, nous allons passer à notre courte méditation biblique.
Nous allons considérer un extrait du psaume 40. Sandra va nous le lire et ensuite Sébastien nous fera part de ses réflexions.
J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi. Il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, beaucoup voudront révérer l'Éternel et lui faire confiance. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux, perdus dans le mensonge.
De quoi David, l'auteur de ce psaume, parlait-il en déclarant qu'il se trouvait au fond de la boue et du puits de destruction? Il s'agit sans doute d'une image illustrant ce qu'il a dû ressentir à travers l'une des nombreuses épreuves qu'il a traversées. Nous ne savons pas exactement en quelle occasion David écrivit ce psaume. Quelle fut précisément son épreuve? Il est possible que ses écrits se réfèrent à la période de sa vie où il fut obligé de trouver refuge dans le désert et de se cacher dans des grottes. Pourquoi? Parce que le roi Saül, alors en place en Israël, l'enviait au point de vouloir se débarrasser de lui en lui ôtant la vie. Ce roi pourchassait David, il le cherchait en chaque recoin du désert afin de découvrir sa cachette et d'en finir avec lui. David devait se sentir traqué, impuissant. Il avait peur. Sa vie était en danger. Son avenir paraissait sombre. Voilà pourquoi il décrivait sa situation en ces termes : le puits de destruction au fond de la boue. Et vous, cher ami auditeur, traversez-vous une épreuve si dure, si terrible que ces mots, la destruction et la boue, résonnent dans votre esprit et votre cœur? Pouvez-vous vous identifier à la situation de David, à son état d'âme? Nous savons que vous devez être nombreux à devoir faire face, impuissants, à la pauvreté ou à subir des injustices, à être exposés à la violence ou l'insécurité. D'autres peuvent se sentir prisonniers de situations épouvantables dont ils n'osent pas parler et dont ils ne peuvent pas parler et dont ils ne voient plus d'issue. Pensons aux femmes maltraitées par leur mari, aux enfants abusés par le parent et bien d'autres situations tragiques. Tant d'épreuves difficiles parsèment notre existence, épreuves qui donnent le sentiment d'être au fond d'un gouffre, d'un puits de destruction, dans la boue. Plongé dans une telle situation, David devait alors se demander « Vers qui me tourner ? Où trouver du secours ? » Sommes-nous confrontés à la même question ? Nous trouvons-nous piégés, prisonniers d'une situation impossible ? Vers qui se tourner ? Nous pouvons nous sentir seuls, abandonnés, et avoir le sentiment qu'aucun être humain ne nous écoutera, que nul ne tendra la main pour nous aider. Cependant, David, à travers ce psaume, témoigne du fait qu'il existe bel et bien une personne, un être rempli de compassion vers qui se tourner, Dieu. Pour conclure, aujourd'hui, notez le bien. David a été délivré du puits de destruction parce qu'il a attendu, confiant, l'intervention du Seigneur. Quelle que soit l'épreuve à laquelle nous sommes confrontés, un espoir existe car ce que Dieu a fait pour David, il peut le réaliser pour vous.
Merci Sébastien pour ces paroles encourageantes. Nous prions afin que beaucoup puissent expérimenter une pleine délivrance de la part de l'Éternel. Nos deux séries se poursuivront la prochaine fois. En espérant vous retrouver bientôt, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.